Bien, bonjour à tous. Ça fait déjà un petit temps que je n'ai pas visité, je ne vous ai pas visité. Merci pour l'invitation. Je me réjouis de voir ou de revoir des visages bien connus, évidemment. Alors, on est toujours très heureux de vous rejoindre, Laurence, mon épouse et moi-même. Alors avant d'ouvrir la parole et de pouvoir ensemble méditer la parole de Dieu, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, très intéressantes, très enrichissantes. Et je voudrais avec vous, avant d'ouvrir la parole, vous faire quelques petites annonces, vite fait. Donc Laurence et moi-même, nous sommes coordinateurs d'un cycle de formation biblique qui n'a plus eu lieu depuis 2 ans à cause du Covid. Pensez bien. Donc, à Genneval, cette année, on reprend. On reprend ce cycle de formation biblique. C'est du 23 au 29 juillet. Donc, c'est un cycle d'une semaine, une petite semaine, où des jeunes de 17 à 30, jusqu'à 35 ans peuvent venir se former. On a déjà eu à peu près, depuis qu'on a commencé, une 50aine de jeunes qui sont venus se former. Et c'est vraiment une semaine très intense. Est très enrichissante pour des jeunes qui sont ici. Je vous invite vraiment à vous inscrire pour ce cycle de formation biblique, CFB, qui a été fondé déjà en Suisse et en France, où ça marche très très bien. Et chez nous, depuis maintenant 4 ou 5 ans, on a commencé ce cycle de formation biblique. Il y a tous des thèmes qui sont abordés. On apprend à gérer un groupe. On apprend à s'exprimer, on apprend la parole de Dieu, évidemment, à pouvoir faire des recherches dans la parole de Dieu, comment aborder un texte. Puis il y a des moments de partage où on parle aussi, concernant les jeunes, de la sexualité, des choses qui sont tabous parfois dans les églises, du mariage. On aborde tout ça. C'est vraiment très, très enrichissant. Et ça donne des visions différentes. Puis on crée des relations aussi. C'est important de créer des relations dans la vie chrétienne. Voilà. Ça sera du 19 au... j'oublie la date, fin juillet. En tout cas, les informations vont venir bientôt parce qu'on a des flyers et je les ferai passer pour que les informations puissent être données ici dans cette assemblée. Je vous demande de prier pour ça. Et puis la deuxième information, c'est que j'ai avec moi mes deux petites filles, deux de mes petits-enfants, Clara et Elia, qui sont les filles de mon fils Jonathan et Sophie, qui ont décidé, sous le regard du Seigneur, de partir au mois de septembre se former à l'IBG, donc l'Institut biblique de Genève. Vous savez que nos assemblées, elles ont un partenariat avec l'Institut biblique de Genève, et Jonathan, on a découvert en lui qu'il avait des dons au niveau de l'enseignement, et il a envie vraiment de se former davantage. Il manque d'ouvriers dans la moisson. Il y a un passage sur lequel je m'appuie toujours, où le Seigneur voit la foule dans les évangiles, il voit la foule, et se tournant vers ses disciples, il dit, il manque d'ouvriers dans la moisson. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Je suis convaincu que si on avait davantage de ministères soutenus, rémunérés dans nos communautés, l'évangile gagnerait davantage de terrain, parce qu'il manque d'ouvriers. Voilà. Donc je vous demande de prier pour eux aussi, parce que c'est un engagement où ils abandonnent leur travail. Lui de son côté, et Sophie qui est architecte, arrête aussi son travail pour pouvoir s'engager dans le ministère, en tout cas dans la formation, pour 1 an, peut-être plus. Voilà. Donc je vous demande de prier pour ça aussi. Mettez ça dans vos prières. Si vous avez un petit endroit pour caser ça dans vos prières, faites-le. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et je voulais simplement vous en profiter pour vous informer par rapport à ça. Mais je reviens maintenant au texte de la parole de Dieu, puisque je suis là quand même pour vous parler d'un texte et essayer d'en tirer le maximum pour nos vies spirituelles. Alors c'est en toute simplicité et en toute humilité. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas du n'importe quoi, c'est le livre par excellence. Voilà. Et je suis convaincu que tout ce qu'elle contient est la vérité. Et pourtant, il y a des choses invraisemblables dedans. Quand on lit la parole de Dieu, il faut quand même la foi pour croire qu'un âne a parlé. C'est pourquoi je suis là ce matin. Mais tout ça pour vous dire aussi qu'il faut beaucoup de foi pour comprendre que Noé a construit une arche sur la terre ferme. Et ainsi de suite, et on pourrait multiplier les exemples dans la parole de Dieu. Mais est-ce que nous le croyons vraiment? Moi je le crois. Je le crois, par la foi bien sûr. Alors je vais vous lire un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, quelque chose qui semble aussi peut-être irréaliste pour nous aujourd'hui, mais tellement important pour nous les hommes du 21e siècle aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est ça. Elle est une parole jeune. C'est le vieux livre aux idées jeunes, la Bible. Et dans Actes chapitre 3, il y a un texte, quelques versets, 11 versets, que je vais lire avec vous, et puis ensuite nous développerons ces versets. Voilà, acte 3. Il y a Pierre et Jean, les deux disciples, qui montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3h après-midi, par rapport à nous. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Il faut souligner dans la parole de Dieu parfois. Si vous avez un crayon, il y avait un frère, un vieux frère qui nous était toujours souligné. Prenez un crayon et quand vous voyez un mot, parce que tous les mots ont leur importance, soulignez. La porte ici, elle est appelée la Belle. Soulignez, parce qu'on en a besoin, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme qui était boiteux de naissance, un handicapé, il voit Pierre et Jean qui arrivent. C'est ce que le texte nous dit. Parce que Pierre et Jean montent au temple pour aller prier. Et il voit Pierre et Jean qui arrivent, qui allaient entrer dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il demande l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Qu'ils disent à l'handicapé. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Et qu'est-ce qu'il s'attend à recevoir, dit le texte. Il s'attend à recevoir une pièce. Il s'attend à recevoir peut-être une pièce qui va l'aider pour passer sa journée, pour pouvoir manger, peut-être boire, parce qu'il n'a rien. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas chômage, on n'avait pas la sécurité sociale, on n'avait pas le CPS, ça n'existait pas à l'époque. Il vivait de l'aumône, cet homme. Et il s'attend à recevoir une pièce. Mais les disciples le regardent attentivement aussi et il lui dit, Pierre il dit quoi? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il prend autorité. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, extraordinaire, et louant Dieu. Tout le monde le vit. Oh, c'était celui qui était assis là-bas. Et il est là. Oui, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement. Ah ben, c'est normal. Nous aussi, nous le serions. Et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Je n'ai ni argent ni or. Avec de l'argent, on peut acheter un foyer, mais on ne peut pas acheter le bonheur. Avec de l'argent, on peut acheter des médicaments, mais on ne peut pas acheter la santé. Voyez-vous, et on pourrait multiplier les exemples dans la parole de Dieu. Il voudrait qu'on puisse voir la scène, essayer de nous représenter la scène. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile parce que vous allez en ville et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'aumône aujourd'hui, de plus en plus. C'est effrayant. Des personnes dans le besoin qui font l'aumône. Alors essayons de nous représenter la scène. En arrière-plan, cet homme est assis à la porte qui est... que le texte nous dit, dites la belle porte. Et cette belle porte du temple est assis ce mendiant. Cet homme qui demande l'aumône, qu'est-ce qu'il est? La parole de Dieu nous dit qu'il est impotent, qu'il est handicapé. Ils demandent la charité à des gens qui montent au temple pour prier. Ils se disent là, ben, certainement que c'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Les gens montent au temple. Ceux qui vont au temple, en général, on dit qu'ils ont un grand cœur. C'est à vérifier, mais enfin voilà. Mais triste cliché. Triste cliché de cet homme assis au temple, handicapé, estropié, impotent, qui demande l'aumône. Nous sommes à Jérusalem, au début de l'ère chrétienne. Pierre et Jean montent au temple pour prier. Si on analyse le texte que je viens de lire, il saute aux yeux que dans la vie de cet homme, qu'il faut l'aumône, il y a quelque chose qui ne marche pas, au propre comme au figuré. Quelque chose ne marche pas. Il y a des millions de personnes, vous entendez? Des millions de personnes. Et parfois, j'ose même le dire, dans l'Église, il y a des personnes chez qui ça ne marche pas. C'est chez qui ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans la vie de certains. Et malheureusement, on peut le constater en tant que responsable aussi, quand on visite des gens, même parmi les enfants de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche plus. Le ressort est cassé. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Et pourtant, ils ont tout. Tout pour que ça marche. Un travail, une famille, ils vivent bien, ils sont parfois à l'aise, ils partent en vacances, ils ont même parfois une seconde résidence. Et pourtant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a que ça ne marche pas, parfois dans nos vies? Et surtout dans la vie de cet homme. Je crois que si l'exemple, il est là, c'est justement pour nous enseigner. Il y a un verset qui nous dit que ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Et ça nous sert d'exemple. Moi, je me demande, parfois dans nos pays, si ce n'est pas à cause de la surabondance que ça ne marche pas. Parce que nous sommes dans des pays où nous avons la surabondance. Où nous vivons dans un pays riche. Et ça ne marche pas. Vous savez, il y avait un pasteur en Alsace, avec qui je me suis... j'étais très bien parce que je me suis converti au contact de cet homme aussi. Et il disait ceci à l'époque, quand le communisme était encore bien présent dans notre société. Il disait, le communisme, pour ceux qui ont été dans les pays où il y avait le communisme, moi j'y suis allé une fois, n'a pas pu éteindre l'évangile. N'a pas pu éliminer l'évangile. Mais le matérialisme est en train de le faire. Le matérialisme est en train parfois d'écraser, de diminuer, d'éliminer l'évangile. Et parfois c'est parce que nous sommes dans l'abondance que ça ne marche pas. Et parfois il faudra avoir un petit peu moins pour que ça aille un petit peu mieux dans la vie. Et justement au CFB, on avait un formateur qui venait de France, Pascal Herrmann, famille bien connue en France, dans le milieu évangélique. Pascal Herrmann, qui a 5 ou 6 enfants, les petits, et quand ses enfants commencent à dire « Oh, il n'y a plus de Nutella à table », il a dit « Ah, ça fait tilt, il est temps que je reparte voir Walter en Bosnie, Walter Gonzalves, parce que là-bas il manque de choses ». Il voulait donner un petit électrochoc à ses enfants pour dire « Regarde, là-bas, ils vivent d'une manière tout à fait différente et beaucoup plus simplement que nous ». Voyez-vous, s'ils avaient un petit peu moins, si nous avions parfois un petit peu moins, ça irait peut-être un petit peu mieux dans la vie. En tout cas, cet homme, pour revenir à ce texte, en tout cas, cet homme, lui, on connaissait la cause de sa misère. On connaissait la cause de son handicap, puisque le texte nous dit qu'il était boiteux de naissance. Il y a des choses qui se sont passées dans sa petite enfance, peut-être. En tout cas, lui, c'était de naissance. Et il y a parfois des choses qui se sont passées dans notre petite enfance. Des blessures qui ne sont pas refermées complètement. Parce que tu as été mal aimé. Ou tu n'as pas été aimé, parfois. Et tu traînes ça derrière toi. Et tu vis avec cette blessure qui ne se referme pas, qui ne s'est jamais complètement refermée. En tout cas, pour cet homme, ça provoquait... Dans la vie de cet homme, sa situation, hein, je vais relever 4 choses Dans le texte, j'ai relevé quatre choses. Il y en a peut-être beaucoup plus, mais j'ai relevé quatre choses négatives dans la vie de cet homme, à cause de son handicap. Et peut-être que quelqu'un va se retrouver dans la situation de cet homme aujourd'hui, et qui va se dire, mais ce qui est négatif dans sa vie, ça me concerne. Ça me concerne. Premier constat négatif chez cet homme. Lorsqu'il est seul, il se traîne. Il n'a pas d'autre possibilité. Il est impotent. Donc quand il est seul, il se traîne. Et peut-être quelqu'un dira ce matin, ben ça c'est moi. C'est moi. Quand je suis seul, si je ne suis pas soutenu, si je ne suis pas entouré, je me traîne. Je me traîne, non pas parce que je ne sais pas marcher, mais je me traîne spirituellement. Je traîne. J'ai difficile à prier. J'ai difficile à ouvrir la parole de Dieu. J'ai toujours besoin d'être soutenu. Pourtant, il y a 30 ans, 35 ans, 20 ans, 15 ans que je suis chrétien, que je me suis donné au Seigneur. Mais je me traîne dans ma vie. Quand je suis entouré, quand je suis dans l'ambiance de l'Église, dans la communion fraternelle, ça marche. Ça marche du tonnerre. Mais une fois que je suis seul, une fois que je ferme la porte de ma maison, je me traîne. L'ambiance, les frères ne me portent plus. Quand les lumières s'éteignent, moi aussi je m'éteins. Ce n'est pas souvent notre cas. On peut être parfois dans la société, on peut être dans la foule et être seul. On vit ça aujourd'hui, beaucoup de personnes sont seules. Parce que notre société est devenue individualiste. Quand les lumières s'éteignent, moi aussi je m'éteins. Quand je suis seul, je traîne. Je traîne mon ennui, je traîne dans ma vie spirituelle. Je n'avance plus. Et qui n'avance plus recule parfois. Vous savez, comme un forçat qui traîne son boulet. L'évangile est devenu un boulet pour lui. L'évangile est devenu un boulet pour toi. Ça, c'est pas normal. Ça devrait nous donner des ailes, l'évangile. Alors ça, c'est le premier constat. Quand je suis seul, je me traîne. Cet homme est important. Il a besoin des autres. Il ne peut pas faire autrement. Deuxième constat. Il est obligé, lui, pour se déplacer, de se faire porter. Il ne peut pas se déplacer tout seul, il se fait porter. Incapable de subvenir à ses propres besoins. Il n'a rien. Il est incapable de survivre seul. Tout ce qu'il peut donner aux autres, parce qu'il n'a rien, c'est l'occasion de faire une bonne action. Voilà ce qu'il peut donner. C'est si souvent notre cas aussi. Donner aux autres l'occasion de faire une bonne action. Lui, il était une charge pour la société. Il était lourd pour la société. Il se sentait inutile, cet homme, qui est assis au bord de la porte du temple. C'est la plus grande souffrance de ce monde. Si on ne se sent pas utile, alors nous souffrons. Pourquoi ? Mais c'est clair, nous avons la réponse dans la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas été créés de cette façon. Pourquoi sommes-nous constitués en ville, en village ? Pourquoi l'homme a toujours besoin de vivre groupé ? Il y a bien quelques exceptions, certains qui vivent isolés, mais parce que nous avons été créés avec cet ADN, c'est le Seigneur qui a mis ça dans nos cœurs. Nous avons besoin de vie sociale, nous avons besoin de contact, nous avons besoin de communion. Nous ne pouvons pas vivre sans église, nous ne pouvons pas vivre sans communauté. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qui est écrit. Lui, il était une charge pour la société, il se sentait inutile. Mais si nous nous sentons inutiles, c'est qu'il y a un problème. C'est une grande souffrance que de ne pas avoir de relations humaines. C'est une grande frustration. Dépendre des autres pour être heureux. Est-ce que ça n'arrive pas souvent ? Je dépends des autres pour ma joie. C'est pas normal. Eh bien, lui, c'est ce qu'il vivait, lui, cet homme. Il vivait ça. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Il se traîne et il se fait porter par les autres. Mon épouse et moi, Laurence, nous faisons beaucoup de relations d'aide. On n'a pas cherché, mais des personnes viennent parler de leurs soucis, de leurs problèmes. On n'a jamais cherché. On s'est formé aussi pour ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'on en avait des besoins. Il y avait des besoins dans le monde, il y a des besoins dans l'Église. Regardez le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a rencontré comme personne? Est-ce qu'il a rencontré une seule fois une personne qui n'avait pas de problème? Non. Il ne rencontre que des gens qui ont des problèmes. Et il n'y a que des problèmes dans la société aujourd'hui, de plus en plus. Parce que la société se déshumanise. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de pédophiles, de psychopathes, de crimes et de violences aujourd'hui. N'ayons pas peur des mots. La société se déshumanise, elle se déshumanise parce qu'elle se déchristianise. Plus l'homme va s'écarter de Dieu, plus il va devenir bestial. Et plus l'homme va se rapprocher de Dieu, plus il va le devenir humain. Que vous le veuillez ou non, c'est la loi que le Seigneur a mise dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme. Troisième constat que je vais faire, négatif. On ne peut pas donner aux autres. Il ne peut pas donner aux autres, puisqu'il n'a rien. Il ne peut pas apporter quelque chose. Sa vie tourne autour de tout ce qu'il va recevoir. Et c'est ça sa vie. Sa vie, elle tourne parce qu'il reçoit. Il ne peut rien apporter. Il ne peut rien donner. Prendre cet homme, prendre, c'est son but. Recevoir, pas donner. Il ne peut pas. Il est pire que les caisses de l'État, je dirais. Parce que l'État, en quelque sorte, s'il perçoit, il redonne. Et cet homme, il ne peut rien donner, il perçoit, mais il ne redonne rien. Et c'est si souvent notre cas aussi. Nous avons besoin de recevoir, mais nous ne pouvons pas donner. Nous ne pouvons pas donner. Il y a des millions de gens comme ça. Il y a des personnes comme ça dans les églises. Comme ça dans les églises. Ils ne se mettent en frais ni d'un sourire. Ça coûte rien un sourire. Et pourtant, ils ne sont en frais de ne même pas donner un sourire, ni d'un service, j'ai noté, ni d'une parole aimable, ni d'une privation, ni d'un sacrifice, ni d'une politesse. Ça nous est déjà arrivé de rencontrer des gens comme ça, oui, souvent. Hein. Souvent, des personnes comme ça. Seul, ce qui compte, c'est leur confort. Du moment qu'eux sont bien, mais on ne peut pas être heureux comme ça. C'est impossible d'être heureux comme ça. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit la Bible. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal au début de ma foi. Je ne comprenais pas ça. Comment est-ce possible qu'on a plus de joie à donner qu'à recevoir? Enfin, mais le Seigneur, il nous habitue à un autre langage. Voilà. Je fais une petite parenthèse, mais quand le fils prodigue, le fils perdu, je préfère, revient à la maison, qu'est-ce qu'il dit le père? Mon fils qui était mort, voici, est revenu à la vie. C'est le contraire du langage que nous entendons. On ne passe pas de la mort à la vie, on passe de la vie à la mort. Mais vous voyez, Dieu nous donne un langage différent, parce que l'évangile, elle va à contre-courant de nos idées. L'évangile va à contre-courant et nous donne une autre chose. Et quand nous l'avons compris, nous avons la paix dans le cœur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et des personnes aujourd'hui, seul leur confort compte, rien d'autre. Du moment que moi je suis bien, les autres, on s'en fiche. On s'en fiche. Tout ce qui rentre chez eux ne sort plus au tableau de leur vie. C'est marqué parfois dans la vie de certaines personnes, voie sans issue, vie en cul-de-sac. Tout ce qui rentre ne sort plus. Quel triste constat. Quel triste constat. Et je me dis que je pense parfois à cette parole de Nietzsche, ce philosophe Nietzsche, qui a d'ailleurs très influencé Hitler par ses écrits, où Hitler a été influencé par les paroles de Nietzsche. Nietzsche a dit, il est athée, bien sûr, il a dit, je deviendrai chrétien. Quand je verrai, et il disait ça à la sortie d'une église, quand il avait vu les gens, je deviendrai chrétien quand ils auront des gueules de ressusciter. Parce que parfois, c'est dur comme parole, mais c'est parfois comme ça que nous sommes. Nous ne vivons pas, en tout cas pour moi, j'ai besoin, je ne fais pas la leçon ce matin, parce que j'en ai besoin moi-même, vous savez, ceux qui me connaissent pourront vous le dire, qui me connaissent mieux en tout cas. Mais il faut avoir des têtes de ressuscité, la joie dans le cœur que le Seigneur nous donne. Nous avons des raisons de jouir. Bien sûr, il y a des moments d'épreuve, de difficulté. Ce n'est pas exclu, bien sûr, ça existe. Et jamais la parole de Dieu nous dit que nous passerons par tout le temps en train de sauter. Mais Seigneur, avec un visage triste, le cœur peut être content. Et on peut être triste de visage, mais apporter quelque chose. Rayonner quand même le reflet de l'Évangile. Quatrième constat, négatif. La paralysie de cet homme, elle n'était pas seulement dans ses jambes. Elle était visible, évidemment, parce que il était estropié, il ne savait plus marcher, donc c'était visible. Mais quand on analyse le texte, et quand on approfondit le texte de la parole de Dieu, on se rend compte qu'il n'était pas seulement, la paralysie n'était pas seulement dans ses jambes, elle était aussi dans son cœur. Elle était aussi dans son cœur. La paralysie avait gagné son intérieur. Il était paralysé à l'intérieur. Cet homme, il n'espère plus rien. Il n'espère plus rien. Il demande l'aumône. Son geste, il est mécanique. Voyez-vous ? Il a pris l'habitude. C'est mécanique, son geste. Il demande l'aumône. Il vit replié sur lui-même. Et comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais c'est pas la solution. C'est pas la solution. Mais lui, il vit replié sur lui-même. Il a baissé les bras. Il a abandonné. Il a abandonné. C'est la persévérance le plus difficile. C'est pas se donner à Christ le plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la persévérance. C'est pas commencer et se dire, je vais faire régime. Lundi, je commence. Non, non, c'est la persévérance qui va... C'est ça le plus difficile. Et lui, il a baissé les bras. Il a baissé les bras, il abandonne. C'est plus facile, évidemment. Il ne cherche pas d'autres solutions. Il y a des moyens, peut-être, hein, malgré tout, mais il ne cherche pas de solution. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui ont baissé les bras. Ils ne luttent plus. Ils ne luttent plus. Lui non plus ne lutte plus. Il ne croit plus à la délivrance. Il ne croit plus au miracle. Il est assis à la porte du temple. Et son geste, c'est toujours la même chose. Il tend les bras. Et il se dit, ben, rentrer dans le temple, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Il préfère rester assis au bord de la porte, sur les marches, et faire l'aumône. Voilà. Rentrer, non, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Il a perdu confiance. Moi, c'est comme ça que je le vois, le texte. Juste quelques pièces qui vont me permettre de manger aujourd'hui. Quelques pièces pour vivre ma journée, ça me suffit. Alors que pour Dieu a pour lui, Dieu a pour toi, non pas un petit salut, mais un salut éternel. Un salut éternel. Lui, il est réduit à mendier à la religion et au monde. Voilà à quoi il est réduit. Un petit peu de bonheur, un petit peu de survie pour moi passer ma journée, alors que les richesses sont là au ciel pour chacun d'entre nous, à notre portée, avec la parole de Dieu, avec l'Église, la communauté qui est là. Quatre choses. Je vous ai développé, il y a beaucoup peut-être plus de choses encore, mais je vous ai développé quatre choses qui prouvent que dans la vie de cet homme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr, lui, ça remonte toujours à son enfance, boîte de naissance, comme je l'ai dit. Mais dans Jean 3, il est écrit qu'on a besoin de naître de nouveau. Recommencer ma vie à zéro. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, nous dit le texte. Cette force paralysante que nous portons au fond de nous-mêmes, parfois, c'est la cause première de nos échecs. Nous sommes en échec. Nous séparer en acceptant d'être délivrés par Jésus-Christ. ou alors bien périr avec le péché. C'est à vous de choisir. C'est à nous de choisir. Si vous n'avez pas encore fait le choix, c'est l'occasion aujourd'hui. C'est un jour de grâce, c'est un jour de salut. Ou nous sortir, prendre en quelque sorte le problème, notre problème, et le présenter au Seigneur, accepter d'être délivré par Jésus-Christ, ou rester accroché au péché, qui nous empêche d'avoir une relation complète, de naître de nouveau. Parce qu'il ne faut pas non plus vouloir former des religieux, mais, et amener des personnes à la religion, mais non, je voudrais amener des personnes à la nouvelle naissance. Alors l'Église va exploser. Alors ça va multiplier. Nouvelle naissance. Oui, Pierre lui a déjeuné ni argent ni or. C'était la délivrance pour lui. Pierre et Jean, ils ont pitié de lui. Ils savent bien en le regardant qu'il a un problème paralysant dans son âme. Je n'ai ni argent ni or. Ils aiment cet homme. Pourquoi l'aiment-ils? Pourquoi l'aiment-ils? C'est pas écrit, mais on sait qu'ils l'aiment. Et nous les uns les autres. Parce que la caractéristique du christianisme, c'est quoi? C'est l'amour. Le capitaine Roth, pour ceux qui ont connu, officiers de l'armée du salut qui ont parcouru et baroudé les chemins de Suisse, de France, de Belgique et bien d'autres, chantaient « L'amour est la loi des cieux ». L'amour est la loi des cieux. Sans l'amour, on ne peut rien. La caractéristique du christianisme, c'est l'amour. Jésus-Christ est venu parmi nous par amour. Il est descendu vers nous par amour. Il a porté le poids de nos péchés par amour. Et nous devons aussi refléter l'amour. L'amour, c'est la caractéristique du christianisme. Pierre et Jean fixent cet homme. Imaginez-vous la scène. Il le fixe. Il a tendu la main. Il le fixe. Regarde-nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent l'attention de cet homme. C'est pas pour rien qu'il est écrit « Regarde-nous ». Quand je vous disais de souligner, « Regarde-nous ». Prends conscience de ton état. Regarde-toi. Prends conscience de ta situation. Tape-toi à genoux. Prie. Demande au Seigneur de t'aider. Crie ta souffrance. Crie ta douleur. Le Seigneur est là. La guérison, elle commence par une prise de conscience. Si je ne prends pas conscience que je suis alcoolique, je ne guérirai jamais. Si je ne prends pas conscience de mon péché, je ne pourrai pas être sauvé de mon péché. Je dois me reconnaître pécheur. La guérison commence par la prise de conscience. Regarde-nous, dit-il, Pierre et Jean. Regarde-nous. Il prend conscience. Dieu sollicite aussi votre attention. Dieu sollicite votre attention. La phrase qui suit, ça le déçoit. Lui, il a tendu la main pour avoir une pièce. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Et il prend l'autorité. Lève-toi et marche. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est ce qu'il a voulu dire au paralytique. C'est ce verset de 1 Pierre. Je vais vous le lire. 1 Pierre 1. Alors, le petit épître de Pierre. J'avais souligné 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, je pense. Voilà. Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Ce n'est ni avec l'argent ni l'or, mais c'est par le sang de Christ. Comme cet homme qui a bénéficie de l'intervention de Dieu dans sa vie, Dieu peut aussi intervenir dans ta vie. Dieu peut aussi intervenir dans ta vie. Nous avons vu ce que la paralysie avait produit chez lui. Alors, voyons quand même pour terminer quatre choses positives, et j'irai très vite, quatre choses positives à l'encontre de sa vie, parce que c'est là qu'on se rend compte que sa vie est transformée à cet homme. Quand il a pris conscience de son péché, quand Pierre et Jean lui ont dit « Lève-toi et marche au nom de Jésus », il a pris conscience. Vous avez vu des points négatifs. Voyons quatre points positifs. Verset 8. Il entre dans le temple. et il loue Dieu. Il y a un changement, hein. Et puis, non seulement il rentre, il loue Dieu, mais il saute. Il saute de joie. Et il a perdu tout son poids. Hein. Il a des ailes maintenant. Il saute alors qu'il était de naissance handicapé. Puis, il est écrit qu'il ne quitte plus jamais Pierre et Jean. Il ne les quitte plus. Il les suit partout. Oh, et partout, il est à côté. Oui, oui, maintenant, plus de la même manière. Hein. Il les accompagne. Il soutient. Il croit maintenant de toutes ses forces. Il accompagne Pierre et Jean. Et puis, il entre dans le temple aussi, comme je l'ai dit, mais avec eux, avec Pierre et Jean. Voilà ce que je voulais laisser sur vos cœurs ce matin, ce texte de l'Évangile, tellement riche, la parole de Dieu tellement riche, tellement belle, tellement précieuse. Que le Seigneur nous aide dans nos recherches, si nous recherchons encore, et qu'il nous aide à nous peut-être nous restaurer, je dirais le mot, si nous avons besoin d'être restaurés. Mais j'en ai besoin, vous savez, il ne faut pas croire. Hein. Le premier message est pour moi, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi, parce que j'en ai besoin. Je n'ai pas l'habitude de parler des choses que je ne pratique pas toujours, parce que c'est pas... Voilà. Mais ici, voilà, j'ai besoin d'être aussi fortifié par la parole de Dieu et encouragé. Et nous devons nous encourager les uns les autres. Surtout dans cette période tellement compliquée, dans cette période peut-être spéciale que nous revivrons peut-être plus. Et même les générations en dessous de nous, on ne sait pas. Mais voilà, on s'est dit, la grippe espagnole qui a fait 40 à 50 millions de morts, c'était en 1920, juste après la Première Guerre mondiale, où les gens étaient affaiblis. On s'est dit, bon, on ne craint plus rien aujourd'hui, hein. Voilà. Aujourd'hui, on est à l'abri de tout, hein. Nos scientifiques, oui. On le voit. Nous sommes bien faibles. Et nous devons le reconnaître devant le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour ta précieuse parole qui nous fait du bien, qui nous enseigne, qui nous encourage, qui nous fortifie. Bénis, Seigneur, cette communauté. Bénis les responsables, bénis ceux qui sont à l'œuvre. Seigneur, je te prie ce matin pour peut-être des personnes qui ne te connaissent pas personnellement, qui n'ont pas fait d'engagement, qui n'ont pas pris d'engagement avec toi, Seigneur, qui n'ont pas pris conscience de leurs péchés, ou mais qui sont jeunes parfois et qui se disent « j'ai encore le temps ». Mais non, Seigneur, je te prie pour eux. Tu es le seul qui puisse les convaincre. Tu es le seul par l'Esprit Saint qui puisse, Seigneur, parler à leur cœur. Merci de le faire. Merci de restaurer ceux qui sont faibles. Tu vois, la situation aujourd'hui sanitaire, elle nous empêche parfois d'avoir une relation normale, avec nos, même dans notre propre famille. Seigneur, je te demande d'intervenir et de stopper, Seigneur, cette situation. Nous avons tellement besoin de réveil. Nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes dans des pays d'abondance. Alors, Seigneur, nous sommes parfois pris par des choses habituelles. Nous avons l'habitude d'entrer dans un magasin, de choisir, de voir. Alors que, Seigneur... Tout ça, c'est grâce, grâce sur grâce. Moi, je veux te demander de nous fortifier, de nous aider, ceux qui sont en souffrance pour l'instant. Il y a des familles, Seigneur, parmi nous qui souffrent, Seigneur, de situations, d'épreuves. Tu les connais, Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins, et je te les confie. Merci encore de nous accompagner pour le reste de cette journée et aussi pour cette semaine qui commence, au nom de Jésus. Amen. Merci bien. J'enlève le micro, je le laisse.